En attendant, portez-vous bien et restez à l'écoute de Radio Libertaire.
Eh ben, merci Monique encore une fois sur Radio Libertaire 89.4, émission bien sûr en direct, mais là d'un genre un peu spécial puisque notre invité est là-bas sous le soleil de Tahiti et bon, on va user de cette forme téléphonique que Monique maîtrise bien sûr à loisir. On est bien sur Ondes de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Jacques Alain Léger, et puis de son biographe Jean Azarel, qui a publié aux éditions Séguier, vous direz que je suis tombé. Jean, comment ça va? Allô?
Allô, vous m'entendez?
Ah, ça y est, on est sauvé là, tu m'entends?
Oui, je disais que j'ai fini ma noix de coco sous le soleil de Tahiti et que je suis prêt pour l'émission.
Et les vahinées, comment elles sont actuellement?
Ah, les vahinées, la gousse est prête.
D'accord.
la gousse de vanille vahinée, évidemment.
Alors, nous devions avoir une tierce personne, c'est-à-dire l'ami Jacques Coda. Théoriquement, il lui serait arrivé des malheurs. Il m'a envoyé un mot plus ou moins vaseux, alors qu'on l'a croisé cette nuit du côté de la contrescarpe, dans un état, un peu douteux.
Donc, tiens.
Oui, ça ne m'étonne pas de lui. D'ailleurs, il avait un t-shirt avec dessus marqué « Caméra Gréco ». C'est un livre qu'il a publié chez... Si. Il est si peu mégalomane qu'à chaque fois qu'il publie un livre, il se fait un t-shirt avec son livre dessus. Hein. Donc c'est aux éditions Marest, Caméra Gréco.
Excellent livre d'ailleurs.
Je sais que tu as beaucoup de peine parce que Philippe Soler s'est mort.
Un de mes meilleurs amis a effectivement beaucoup de peine, c'est vrai.
Beaucoup de peine, et c'est justement le jour, quasiment, où moi, mon ami Éric Tessier a publié un livre aux éditions Douros, Les années clandestines, donc on en reparlera un autre jour sur Radio Libertaire 89.4 sur Onde de Choc sans aucun problème. Avant qu'on commence et qu'on descende dans « Vous me direz », vous direz que je suis tombé vie et mort de Jacques Alain Léger. Je vais te lire une petite phrase que tu vas identifier tout de suite. Hein. C'est un petit salut qu'on va faire tous les deux à quelqu'un. Je mène à pas feutré mon errance marginale, ma quête aventureuse, afin de préserver encore pour un temps ces forces déclinantes, physiques et mentales, et la belle liberté qui sont l'unique richesse des vieux loups solitaires. Ça t'inspire ?
Merci pour mon ami Alain Gégou, qui nous a quittés il y a 10 ans et à qui je rends d'ailleurs un hommage jeudi à Nîmes. Un hommage en lecture et en images.
Faut dire qu'il était marin-pêcheur quand même, hein, c'est rare.
Marin-pêcheur, effectivement, dont le bateau a fini éventré par un cargo qui est sorti de sa route avec un bazar pour les assurances. Il n'a pas touché grand-chose, l'ami Alain. Et puis le crabe a rattrapé le marin pêcheur, voilà.
Et c'est quelqu'un qui a surtout produit un texte qui existe.
Ah ben il en a produit plus d'un. Mais
j'appelle le texte la globalité de son texte.
Ah oui, il a vraiment une œuvre, Alain. Il a plus de 40 recueils de poésie, 2 polars. Il a participé à de multiples revues collectives, dont certaines d'ailleurs, pour ton information, sont en train d'être réunies par l'ami Benoît Delaune, qui est en train de faire un assemblage inédit de textes de Gégou qui aujourd'hui sont introuvables. Il fait un travail d'archives, il recueille à droite à gauche tout ce qu'il peut trouver et ça devrait, si tout va bien, sortir l'année prochaine.
Alors, je vais te raconter mon contact avec Jacques Alain Léger.
Oui.
J'ai lu il y a très longtemps, j'ai lu par exemple Monsignor, j'en ai lu d'autres, j'ai lu
à contre...
Comment ?
Son grand succès.
J'ai lu à contre-courant, j'ai lu à Le Magnifique, et figure-toi que je n'avais jamais fait le rapport les uns avec les autres, et que quant à Monsignor, je ne savais même pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et j'ai fait un tour de piste. J'ai fait un tour de piste, tu vas voir où je veux en venir. J'ai fait un tour de piste par rapport à mes relations, en demandant aux gens, vous connaissez Jacques Alain Léger, et personne ne connaît. Alors,
oui,
le
bon, ça ne me surprend pas vraiment. Hein.
Oui, mais je veux dire que... Est-ce qu'à force de s'être voulu quand même assez médiatique, il n'est pas passé complètement à la trappe?
Il est surtout passé à la trappe parce que c'était un libre esprit et que, bipolarité aggravée aidant, il a fini par se fâcher parce que par tout le monde des lettres, des critiques qui l'ont beaucoup descendu sur les 20 dernières années de sa vie. C'est effectivement vrai que le lectorat n'a pas forcément un grand souvenir. On se souvient plus de lui en tant que Dachel et Dayat pour son album culte obsolète, hein, qui est sorti en 1971, hein, qui lui...
album de rock. C'est du rock.
C'est du pop rock, oui, pop-rock, avec le groupe Gong qui l'accompagne sur ce disque-là, et la chanson Chrysler qui est toujours... qui est classé dans tous les top 100 ou assimilés de la musique pop-rock, hein, par tous les experts ou les soi-disant experts, voilà.
Alors j'ai lu avec grande attention cette biographie publiée aux éditions Séguier.
Absolument, oui.
Alors, moi, j'ai été agacé.
Oui.
J'ai trouvé que le biographe, c'est-à-dire toi, bien qu'il y a une déclaration d'amour évidente à l'égard de Léger, tu étais souvent aussi excessivement agacé. Et j'ai trouvé que lui aussi, il s'agaçait lui-même. Est-ce que ça te paraît bien comme lecture ou pas ?
Oui, c'est une lecture qui me chagrine pas du tout. Hein. Je suis un... Moi, j'ai découvert Jacques-Alain Léger via Dachel et Dayat, ça fait un peu plus de 50 ans hein, maintenant. Donc, je l'ai toujours suivi parce que je trouve qu'au niveau littéraire, c'est un mec qui écrit très très bien, qui magnifie la langue française avec une richesse de style et de vocabulaire qui est quand même assez remarquable et qu'on trouve plus trop malheureusement aujourd'hui. Après, j'ai pas voulu du tout faire une hagiographie. Il y avait des choses chez lui et notamment dans son comportement qu'on peut tout à fait ne pas apprécier. Donc que je sois par moments un peu agacé par cette façon qu'il avait de s'auto-détruire lui-même, mais qui était en même temps son moteur pour écrire. Oui, on peut dire ça, et certainement qu'il s'en agaçait lui-même, il en souffrait même, plus que s'en agacer, il en souffrait énormément, c'est évident.
Mais je vais retrouver, quand il y aura un peu de musique qui passera à l'antenne, là, je vais retrouver, à un moment donné, il y a quasiment une déclaration d'amour que tu lui fais.
Il y a une déclaration d'amour, oui, parce que moi, je suis un garçon... qui ne suit pas, forcément toujours attiré que par les dames. Je l'ai été à un moment par les messieurs, et effectivement, à une certaine époque notamment, quoi. Donc, on peut voir une déclaration d'amour, mais bon, des déclarations d'amour, j'en ai fait d'autres, à d'autres hommes, à des femmes aussi. Donc, non, ça ne me chagrine pas qu'on dise ça, bien sûr.
Il y a quelques années, j'avais fait une émission avec Yves Buin qui avait fait une biographie de ça va me revenir de Paul Nizan, et je lui avais dit, mais lorsqu'on est biographe comme ça, il faut qu'on ait un minimum et même beaucoup d'empathie pour celui sur lequel on se penche, non?
Bien sûr, évidemment. Écoute, j'ai commencé à écrire ce livre quelques mois après sa défenestration, donc fin 2013, et tu vois, il sort pratiquement 10 ans après. Donc, je dirais pas que je lui ai consacré 10 ans de ma vie, parce que je suis un écrivain laborieux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour rencontrer les témoins, réunir des archives, essayer de faire un bouquin qui tienne à peu près sur pied au niveau de son architecture d'ensemble. Mais évident, Léger, il m'a accompagné et il continue à m'accompagner. Comme d'autres, hein. Mais tu sais, j'avais mis à peu près 10 ans aussi pour écrire ma bio sur l'actrice Tina Aumont, qui est aussi une autre grande foudroyée du système, fille de Jean-Pierre Aumont et Maria Montes. Donc, autant je peux écrire plus rapidement de la poésie, autant là, sur les bios, moi, ça m'est impossible de torcher ça en 6 mois, quoi.
Étant donné que, comme je réitère, autour de moi, personne ne savait plus qui c'était, et ça, on va y revenir par rapport à ce qu'on appelle la culture, la contre-culture, promis, ça va être un des sujets de l'émission. J'ai retrouvé ce que je voulais,
absolument.
Les quelques, Comment? Oui, bien sûr. J'ai retrouvé des quelques lignes de toi que je vais lire, d'accord? Et tu dis,
vas-y.
Et quelque part, il se tient là, tapis, chantant, gesticulant ici ou ailleurs. Il se duplique dans mes yeux, ma bouche, mes baisers, mes coups de fouet sur la lagune de Venise où coulent des eaux molles et fiévreuses. Et un peu plus loin, avec ce livre, je règle un arriéré personnel avec Jacques-Alain Léger et ses sosies temporelles, mais aussi avec Daniel Théron, c'est son véritable nom. À l'enfant floué, puis à l'adolescent, devenu adulte inguérissable, je règle aussi une dette à la beauté et à l'effroi qui, de toute façon, ne m'ont jamais quitté. Mais que cet individu, aussi génial qu'abominable, a su attiser ma vie durant. Combien sommes-nous ainsi, un livre dans une main, l'autre griffonnant des phrases fébriles en un voyage guidé intime pour survivre. Voilà, c'est clair, non?
Oui, je pense.
Le rapport est clair. Oui, je veux dire que ce n'est pas seulement un rapport littéraire, il y a un rapport de chair là-dedans.
Oui, bah oui, absolument. Oui, mais bien sûr, hein, bien sûr.
Tu sais ce qu'on va faire? On va écouter un tout petit peu de musique et il faut le faire. On va essayer de a cappella, toi et moi, de descendre un peu dans la biographie de Jacques-Alain Léger. Ça te va?
Oui, mais bien sûr.
Hein? D'accord.
Tout me va.
Bah attention, il y a musique, il y a Monique qui envoie la musique là.
Le premier corps est le premier des assassins. Cherche l'œil gauche. Le deuxième corps est le second des 129. Emballe le thorax. Le troisième corps est le troisième des migrants. Trouve la rate. Le quatrième corps est le quatrième des assassins. Ramasse la cervelle. Le cinquième corps est le cinquième des 129. Rassemble les dents. Le sixième corps est le sixième des migrants. Balaye les testicules. Le septième corps est Brahim Abdeslam. Le septième corps est Marie-Aimée Dalloz. Le septième corps est sans nom. Le premier corps des assassins. Le premier des 129. Le premier des sans nom. Le deuxième corps des assassins. Le deuxième des 129. Le deuxième des sans nom. Le troisième corps des assassins. Le troisième corps des 129. Le troisième corps des sans nom. Le quatrième corps. Le cinquième corps. Le sixième corps. Le septième corps. Ne reste pas là comme ça. Relis plutôt les contes des mille et une nuits.
Eh ben, quelques commentaires, monsieur Jean Azarel.
Ah ben, je suis... écoute, ça me fait très plaisir que tu passes ce morceau avec un texte que j'ai écrit après l'attentat du Bataclan, puis tout ce qui s'en est suivi. Et puis pour mon compère Harold Divard, qui m'accompagne musicalement pour la mise en espace sonore, d'autant que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent sur les ondes, et d'ailleurs qu'on ne joue pas non plus très très souvent, parce que bon, comme on dit...
Oui, mais on est sur Radio Liberté 89.4 avec Monique à la technique, alors hein, c'est tout à fait normal, hein. Donc,
c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Encore plus nu, voilà, qui est sorti en 2017, donc.
Alors, vous direz que je suis tombé, c'est le titre du livre d'ailleurs, c'est une phrase fort enfantine, non?
Ben, vous direz que je suis tombé, c'est une phrase fort enfantine, et le titre de ce livre, c'est en fait le titre de la chanson du premier album de Jacques-Alain Léger, qui n'était pas encore Jacques-Alain Léger, c'était Melmotte, du nom du héros errant de Mathurin, et qui apparaît dans cet album qui s'appelle La Devanture des Ivresses, qui est sorti en 1969. Voilà, il y avait déjà chez lui ce syndrome de la chute, et on peut effectivement, tu as raison, faire un parallèle avec l'enfance, puisque ça a été dès le début un enfant très contrarié, puisqu'il est venu après un frère mort-né, et il a porté cette croix avec lui tout sa vie durant, léger.
Tu sais que Pierre Boulez, avant de venir au monde, il a eu un frère pareillement qui est mort quelques années avant, et la mère l'avait appelé Pierre Boulez. Le petit Pierre Boulez allait voir la tombe du Pierre Boulez qui était mort.
L'histoire repasse inlassablement les plats, hein. C'est bien connu.
Hein. Non, moi je dis qu'on va faire, on va essayer de voir qui exactement il est dans la ville, dans la cité, parce qu'à chaque fois, à chaque page, à chaque chapitre de ce livre, moi j'ai crié « À moi, Papa Freud ». À moi, Papa Freud, parce que les tournures psychanalytiques sont tellement évidentes.
Oui, bien sûr, hein. C'est un aspect que j'avais pas forcément vu d'ailleurs dès le début, et puis c'est en travaillant et en fouillant dans les archives que c'est apparu, de façon très nette, hein. C'est bien sûr, à moi, Papa Freud, effectivement, quoi.
Donc c'est un milieu bourgeois?
C'est un milieu, au départ, oui, qu'on peut qualifier de petit bourgeois. Le père était fonctionnaire des impôts, la maman faisait des traductions pour Maspero, quand même, pour François Maspero. Donc, donc qui était communiste, hein, le père était communiste, petit bourgeois de gauche.
Ouais, je t'ai trouvé un brin à charge contre le père. Et moi, en te lisant, j'ignorais absolument de tout ça. Je trouve pas ce père totalement sans intérêt. Hein.
Ah, mais il est pas sans intérêt. Le problème, c'est qu'il est le grand absent du livre parce que il y a une espèce de chape de plomb qui malheureusement ne m'a pas permis d'en savoir beaucoup plus, quoi. Hein, puisque le frère aîné, il avait un frère aîné, Michel, était déjà décédé quand j'ai commencé le bouquin, et que Catherine Théron, la sœur, qui est passée par le maoïsme, a ensuite dérivé, ce qui est tout à fait son droit, vers la chrétienté. Son frère disait la bigoterie, et que là-dessus, elle a pas été du tout très diserte, quoi. Voilà. Mais certainement que le père aurait mérité qu'on parle davantage de lui dans le livre. Moi, je n'ai fait qu'imaginer une scène à Bruges. Voilà.
Tu dis imaginer une scène à Bruges, mais tu l'as rencontré léger ou pas?
Ça je le dis dans le livre. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, hein, effectivement.
Donc oui, dans cette biographie, pour moi, ce n'est pas seulement entièrement la biographie de Léger, c'est bien sûr, mais j'ai lu tout au travers, tout le portrait d'une époque.
Absolument, très très juste.
D'une époque. Alors, où on ne sera pas d'accord, j'espère qu'on aura le temps de le faire à la fin de l'émission, c'est ce parallèle outrancier et insupportable que tu as fait avec Arthur Cravan. Mais, oui, bien sûr, et je dirais pourquoi d'ailleurs, Arthur Cravan dit cette phrase quelque part, « Je suis le bébé d'une époque ». Et effectivement, on a l'impression que Jacques-Alain Léger, c'est le bébé d'une époque à un moment donné.
Oui, je pense que c'est même le bébé de plusieurs époques, parce que c'est un écrivain qui était une véritable éponge, hein, par rapport aux différentes décennies qu'il a traversées. Hein. Il avait complètement gobé les codes du rock et de l'underground au début des années 70, il a gobé après les codes du roman littéraire historique, du roman plutôt de type polar, du pamphlet, il était capable d'écrire dans à peu près tous les styles, alors on en pense ce qu'on veut, on l'a accusé même d'être une taupe d'extrême droite, mais il avait quand même s'il y a mis beaucoup d'excès, vu qu'il y avait un penchant radical de l'islam qui allait émerger, donc c'est quelqu'un qui effectivement est le reflet de notre époque, tout à fait. Et j'en parlais ce matin, c'est dommage qu'il soit plus là, parce que avec ce qui se passe aujourd'hui entre l'environnement, Macron, le wokisme, le néo-féminisme, je pense qu'il aurait écrit des choses formidables.
Là j'ai une... Quelqu'un me disait la dernière fois que Libération, qui est un journal parfaitement illisible de nos jours, parenthèse fermée, avait donné au départ deux genres de personnes. Quelqu'un d'officiel qui s'appelle Serge Julie, et de l'autre oui. côté, quelqu'un qui était absolument paumé, c'était Pacadis.
Et oui, ah bah oui, bien sûr, Alain Pacadis a chroniqué énormément dans l'idée.
Et j'ai l'impression d'assister à ça, avec cette bipolarité, c'est le cas de le dire, avec ce portrait de Léger. D'un côté, de vouloir l'officialité, et d'autre côté, vouloir la destruction.
Bah, c'est-à-dire, bon, c'est un garçon qui d'emblée avait dit « je ne vivrai que de ma plume ». Donc pour vivre de sa plume dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et a fortiori en étant un grand malade, c'est très compliqué. Tu es obligé de faire des courbettes au mundillo de la littérature que en même temps tu détestes. Parce que Léger est quelqu'un qui n'aimait pas ce qui était la société marchande du spectacle, etc. Il avait besoin de Gallimard, il avait besoin de Grasset, il avait besoin de Flammarion. Il les a usés les uns après les autres, mais il en avait besoin.
Oui, mais t'es en plein dans le sujet, c'est-à-dire qu'il s'est complètement complu là-dedans.
Oui, ah mais oui, bien sûr.
Je veux dire,
il s'est complu là-dedans. il pleurait après ses avaloirs, tout en traitant le fils Gallimard de laquais et d'héritier, bien sûr.
Mais je veux dire que tu choisis tes proies, tu choisis tes ennemis lorsqu'on prend comme proie ou comme ennemi Françoise Verny ou Bec Bédé, par exemple. Je sais pas, c'est qu'on a vraiment par rapport à ce monde-là un compte à régler.
Il a un compte à régler et il le règle dans les pamphlets de la fin de sa vie. Je pense notamment à celui qu'il a écrit en 2003, au lendemain du deuxième tour, Chirac-Le Pen. On en est là, c'est un règlement de compte à répétition, qui n'est pas de la grande littérature, là, pour le coup, mais qui est extrêmement jubilatoire, jouissif, avec un humour vache qui est formidable. Ça, c'est un autre... C'est un autre aspect de Léger, quoi. Et évidemment, alors au début, un peu à la manière de Proust dans sa recherche, on reconnaît pas forcément les personnages qu'il croque, et notamment puisque tu l'as évoqué, Françoise Verny. Et puis à un moment, le Verny, l'autre, craque et du coup, il déverse sa bile. Tout le monde y passe. Hein. C'est Chirac, c'est Martine Aubry, c'est France Gall. C'est dans Ali le Magnifique, par exemple, c'est un véritable torrent verbal. Et ça, c'est Jacques-Alain Léger qui trouve aussi ce monde dans lequel il vit devenu insupportable.
On va y venir dans le détail.
Il finira par ne plus supporter.
Il supportait plus lui-même, surtout, oui. C'est lui-même qu'il ne supporte plus. Hein, parce que... voilà. Page 60 de ton livre, tu as reproduit une photo. Tu l'as en mémoire, cette photo-là, c'est ce...
Alors, page 60, c'est laquelle? C'est la photo de classe?
Non, Jacques-Alain Léger dans sa période d'Acheld et d'Aya.
Oui, c'est ça, c'est la période cuir, bagouze.
D'accord.
Et...
bah, voilà, ça, on dirait un jeune homme de bonne famille en rupture de banc, tu vois.
Pardon?
On dirait un jeune homme de bonne famille en rupture de banc.
Oui. Ah ben, il a plongé là-dedans. Bon, c'est l'époque où je te disais. Bon, lui, il avait gobé absolument tous les codes, y compris le fait de s'enfiler énormément de substances type opium et surtout LSD. Qu'il avait du mal à supporter parce que quand t'es pas bien dans sa tête, dans ta tête, c'est généralement des résultats qui peuvent être désastreux. Bon, on connaît un certain nombre qui en sont parvenus, qui sont passés par la fenêtre ou qui ont fini en camisole chimique.
Hein. Il y avait je vais te faire une confidence sur la biographie, ça va vraiment t'intéresser. Je suis allé à la manifestation du 1er mai lundi dernier. Et là, ouais. Dans cette manifestation, il y avait un jeune homme bien sous tout rapport qui criait cette phrase. Alors, on en pense ce qu'on veut. Hein, il criait « Un flic suicidé est un flic à moitié pardonné ».
Ah oui.
Et j'ai regardé ce type-là. C'est pour ça, donc, c'est corollairement à la page 60 du bouquin avec la photo de Léger. J'en regardais ce type et j'avais l'impression d'assister à un petit garçon tout droit venu du 16e arrondissement. Et je me suis demandé, parce que je savais que j'allais faire l'émission avec toi, qu'est-ce qu'il allait devenir, ce garçon si révolté, si radical? Et ça m'a fait penser à Léger.
Oui. Bon, on peut faire ce parallèle-là. Hein. Bon, il venait pas du 16e arrondissement, mais il a fait quand même ses études à Henri IV. Donc, en fréquentant des profs, comme à un moment je l'évoque, Jean-Louis Bory, bon, il a eu aussi des... Et puis, bon, très vite, c'est la littérature qui l'a happé, parce qu'il s'est rendu compte qu'en tant que musicien et qu'en tant que chanteur, il serait pas à la hauteur, même s'il a fait un album qui aujourd'hui compte, mais il a pas perduré dans cette voie, quoi.
C'est quelqu'un qui est malade très tôt ?
C'est quelqu'un qui est malade très tôt, sans s'en rendre compte, puisque je pense qu'il se rend compte véritablement de sa bipolarité quand il a quand même largement dépassé la vingtaine, quoi, hein, Léger.
En tous les cas, c'est quelqu'un qui, dès le départ, a des gros problèmes avec son corps.
Il a des gros problèmes avec son corps, effectivement, et il a des gros problèmes avec son identité, et le corps fait évidemment partie de l'identité. On peut pas séparer comme ça par un coup de baguette magique le matériel de l'esprit ou l'esprit de la matière. Donc c'est vrai qu'il va chercher pendant très longtemps à modeler son corps par tout un tas d'assaises diverses, notamment la boxe. Hein, c'est pour ça que je me suis permis peut-être un je veux bien que ce soit hasardeux mais une forme de parallèle avec
nous
Arthur
allons y revenir Cran, nous allons bon. Y revenir sans aucun problème. Non mais je veux dire que le paradoxe il est, c'est qu'il se promène avec des exemples corporels complètement aux antipodes, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a toujours une référence à Bacon.
Oui,
dans sa vie,
oui.
c'est la déliquescence de la chair, et de l'autre côté, il y a des références à Mishima.
Oui, bien sûr. Eh oui, il y a toujours le yin et le yang, hein, en quelque sorte, chez lui, bien sûr. Hein. De la même façon que la bipolarité, t'as des périodes d'euphorie, et puis t'as des périodes de profond abattement, dans lesquelles, lui, il était d'ailleurs incapable d'écrire un mot, quoi. Alors que quand il était dans l'euphorie et il s'en vante, il écrivait ses livres en une vingtaine de jours. Il dit il faut que le prochain je fasse un jour de moins pour faire mieux que la Chartreuse de Parme, quoi, de Stendhal, quoi.
Tout à l'heure, je disais que j'avais envie de crier à moi Papa Freud à chaque page, là. Mais il a un dénigrement de lui-même, de son corps. À un moment donné, il dit, je vais retrouver le passage. Hein.
Oui.
Il est gros, il a un petit sexe, il est flasque. Pendant tout l'ouvrage, t'assistes à un numéro de sadomaso.
Alors, il était sadomaso, d'où d'ailleurs son attirance pour Bacon et Léris, enfin le duo Bacon et Léris, ce qu'il a d'ailleurs parfaitement explicité dès 1982, c'est-à-dire qu'il avait 25 ans, hein, dans son autobiographie, Autoportrait au loup, où il se délivre déjà de ça. Effectivement, hein, c'est tout à fait juste chez lui, quoi. Hein, ce sadomasochisme, il existait, bien sûr.
Avant de réécouter de poursuivre l'aventure avec vous direz que je suis tombé Vie et mort de Jacques-Alain Léger aux éditions Séguier. Écoutez un brin de musique. Je vais simplement lire un entrefilet puisque. Léger s'en est pris avec BD, non ?
Oui, il n'était pas copain avec Bec BD. Il avait des têtes de Turc, hein, et Bec BD, effectivement, faisait partie. Mais il y avait aussi Christian Bobin, enfin, il y en avait d'autres.
Il y avait Bernard-Henri Lévy.
Il y en avait d'autres. Il y a eu Raphaël Sorin. Enfin bon, parmi ses pairs, on va dire, de lettres, je crois qu'à un moment, il s'est un peu fâché avec tout le monde, quoi. J'en parle à un moment avec Dominique Noguez aussi, où pourtant il s'est fâché avec Garcin qui au début l'encensait, mais effectivement, Bébé Fredo, c'est une de ses cibles favorites. Ouais.
Alors, le Figaro Magazine l'a fait, 8 pages de Michel Onfray à la une, un philosophe en colère, plus 4 pages de Frédéric Becbédé. Service compris. Michel Onfray est en colère parce qu'il voit arriver une vague nihiliste et que c'est la faute des philosophes des Lumières de Robespierre qui voudraient unir le singe et l'homme pour fabriquer l'homme nouveau. Ça chauffe dans la cafetière. Bec Bédé nous resserre le plat faisandé du mâle blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans, persécuté par la pensée woke. On l'a aussi cite, censure, totalitarisme, stalinisme, révolution culturelle, maoïsme. Et comme il prétend à l'Académie française, il étale la confiture. Dans la légende de Tristan et Iseult, Tristan fait boire le philtre d'amour à Iseult et donc, c'est la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Ce serait pour la pensée woke celle d'une meuf droguée par un mec, par un sale mec. Sauf que Tristan ne fait pas boire le philtre à Iseult, il boit par erreur le philtre préparé par la servante d'Iseult pour sa nuit avec le roi Marc. Donc voilà, c'est toute la confusion d'une forme de culture et d'une forme d'intervention matuvuiste dans laquelle a baigné, en pour ou en contre, a baigné Léger, quoi.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais... Ben, de toute façon, ces grands modèles, c'est pas globalement des auteurs contemporains de notre époque. Hein. Il faut aller chercher Stendhal, il faut aller chercher Laurence Stern, il faut aller chercher Proust, Mishima encore. Si Mishima est plus proche de nous, quoi. Mais bon, c'est clair que la littérature d'aujourd'hui n'est pas la sienne. Il avait des rapports très ambivalents avec Solers, hein, par exemple.
Il est mort. Ne dis pas de mal des morts, ça ne sert strictement à rien. Merci Monique.
San Pellegrino. Plus de James Bond contre Dr. No. Plus de silence des agneaux. Plus de sex machine ni de porno. Plus de Lexomil, plus de parano. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Plus de crabe vert ni de bigorneau. Plus de chevalier de l'apocalypse now. Plus de houseboat sur les canaux. Plus de petites culottes de Nadine Morano. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Plus de disco. Plus de techno. Plus de stérilet ni de méthode Ogino. Plus de bobonne derrière les fourneaux. Plus de Johnny Depp avec Al Pacino. Plus de vacances à Concarneau. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Plus de Romina Power avec Albano. Évidemment, exit Luis Mariano. Plus de Kivasano va piano. Plus de people dans les journaux. Fini de tomber dans le panneau. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Fini de tomber dans le panneau, juste le souvenir d'un film de Murnau.
On est toujours au 01 43 71 89 40 et merci Monique pour tous ces miracles sur Ondes de Choc. l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Notre Jacques-Alain Léger fait un succès, un gros succès, un immense succès, un best-seller très tôt, à 26-27 ans, c'est ça ?
Il fait un grand succès en 1976, il a 29 ans exactement, oui. Un peu par hasard, suite à un échec pour l'adaptation de son premier roman qu'on peut qualifier de facture classique, Mon premier amour, qui est entièrement dédié à sa mère, et il torche effectivement ce roman qui est une sorte de polar, qui est là aussi un des premiers qui met en exergue les allez, on va dire ça gentiment, les tripatouilleries du Vatican avec l'extérieur et avec des gens peu recommandables.
Et c'est publié, c'est traduit, publié dans le monde entier, et il y a même une adaptation cinématographique, non ?
Ah oui, 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 il en vend 350 000 exemplaires, c'est traduit dans 23 pays, et c'est adapté à Hollywood, parce que Hollywood, le cinéaste, en l'occurrence David Niven, pense que ça va faire un tabac, contrairement au thème un peu mortifère de Mon premier amour, et effectivement, là, c'est jackpot pour lui, et pendant 5 ans, c'est la grande vie, quoi.
C'est la grande vie, donc il arrive aussi bien au niveau financier qu'au au niveau relationnel. Il est l'écrivain.
Eh ben oui, à ce moment-là, il est effectivement le jeune écrivain qui a le vent en poupe, dont on attend par la suite Mont et Merveille, effectivement. Mais il va dilapider son argent parce que il y a toujours la maladie qui le mine. Il va considérer qu'il obtient un succès pour un livre qu'il a fait comme ça, rapidos, presque par jeu, et que évidemment ça n'est pas la vraie et la grande littérature à laquelle il aspire dans sa recherche du temps perdu, hein, dans sa recherche de devenir l'égal de Proust.
Jean Azarel, la seule maladie qu'il a à l'époque, c'est être bipolaire ou il en a déjà une autre ?
Non, il est bipolaire.
Il n'a pas une autre maladie ?
Non, je ne pense. Enfin, je n'ai rien trouvé qui puisse laisser penser ça. Hein.
Bon, alors, j'ai trouvé dans ton livre. J'ai lu ton livre. Faut pas exagérer. Hein. J'ai lu Acropatie ulcéro mutilante. C'est ça ou pas?
Oui, mais ça arrive très tard, hein. C'est au moment où, parce qu'il passe évidemment de médecin en médecin, il cherche, parce qu'effectivement il a des vertiges, il tombe assez souvent, et c'est lié effectivement, parce qu'il y a encore toujours ce rapport à la boxe, à ses relations avec Jacques Henrique, qui découvre effectivement, parce qu'il lui en parle, qu'il a aussi cette maladie maintenant qui apparaît, quoi. Mais on est déjà beaucoup plus loin dans le temps, hein. On n'est pas dans ces premières décennies-là.
D'accord. Dis-moi une chose, est-ce que je crois avoir croisé dans ton livre qu'il aurait rencontré Warhol, non ?
Ah mais tout à fait, oui, ça, il a rencontré Warhol, il a eu une relation personnelle et charnelle avec Gérard Malanga, le poète de la Factory, hein, qui est resté célèbre pour sa danse du fouet. Oui, il est parti là-bas à l'époque de l'Underground, dans la foulée de Pierre Clémenti, parce qu'il avait à l'époque suivi la bande de Clémenti, la bande pour partie de la coupole, là, qui était parti effectivement aux États-Unis. Ouais.
Non, c'est marrant parce que tout ça, donc j'ai fait le voyage d'un bout à l'autre de ton livre. Il y a un mot, des noms qui me reviennent comme ça que tu n'as peut-être pas employé à l'intérieur. C'est le nom de Truman Capote, par exemple. Est-ce que c'est un nom qui t'inspire ?
Oui, moi je le connais pas bien, mais c'est sûr que Léger, lui, dans toute sa littérature et ce que j'ai pu trouver, n'y fait pas référence.
D'accord. Mais homosexuel, vivant dans le monde, très mal dans sa peau, vivant dans le monde de Warhol, vivant dans le luxe, avec une chute irrémédiable, je trouve que c'est un personnage très très hollywoodien en fin de compte.
Il y a ce côté, effectivement, chez lui, hollywoodien, de midinette à l'envers, hein, voilà. En quelque sorte, quoi, hein, effectivement. Bon, après, pour lui, Warhol, enfin, la Factory, c'est vraiment une parenthèse très courte, hein, dans le temps, hein.
Dans toutes ces relations qu'il a au monde, c'est-à-dire en même temps le monde de Warhol, ce monde chic, etc., ce succès qu'il a là, et il abandonne absolument le bref, très bref la brève attirance qu'il avait eue politiquement pour l'extrême gauche.
Ah oui, ça c'est vraiment l'époque de ses 20 ans. Hein. Et après, on peut considérer, enfin moi personnellement, je considère qu'il n'est pas plus marqué à gauche qu'à droite. C'est quelqu'un qui évolue librement et qui refuse de toute façon que sa pensée soit embrigadée par quoi que ce soit. Et on le voit bien par rapport à son attitude vis-à-vis de l'homosexualité. Il est homosexuel, il le revendique, mais il dit bien le jour de l'année où j'ai le plus honte dans ma vie, c'est le jour de la Gay Pride, le jour de ce prosélytisme où les chairs se mettent en scène dans la rue. Et ça, c'est tout Jacques-Alain Léger. Hein, et il aura toujours eu cette attitude-là, alors vis-à-vis des religions, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la politique. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dicte quoi que ce soit et qui cherche effectivement son Graal dans l'art et dans la réalisation de l'œuvre absolue, ce qui est bien sûr impossible, parce que comme je le dis à la fin, de toute façon, l'art n'aime pas la perfection.
Certes, c'est pas vrai. Mais on peut remarquer aussi qu'avec tous ses refus, c'est quelqu'un qui a une intelligence pour se mouvoir dans le monde des lettres. Hein. Il arrive à rencontrer Bourgois, à rencontrer un type comme Marc Pierret, qui sont quand même des éminences grises de la littérature.
Tout à fait, c'est vrai, bien sûr. Alors au fur et à mesure que le temps va passer, ça va devenir plus compliqué, parce que comme il se fâche au fur et à mesure avec les gens, c'est plus compliqué, jusqu'au moment où effectivement, sa maladie aidant, il va être mis sous tutelle, hein, il va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des éditeurs.
Je te citais Marc, tu as connu Marc Pierret peut-être, non?
Pardon ?
Marc Pierret, tu l'as connu ou pas ?
Non.
D'accord. Non, petite parenthèse entre toi et moi, et puis voilà, c'est vraiment une parenthèse puisque personne ne nous écoute. Le seul rapport que j'ai eu avec ce personnage, qui était vraiment un personnage du monde des lettres, c'est que je devais faire un livre collectif, et il s'est montré tellement agréable au téléphone que je lui ai fait parvenir une boîte de dragées Fuka. Bon. Voilà, donc il est rentré dans la postérité sur Radio Libertaire aujourd'hui, 89.4. Mais on va revenir sur le fait de... Comment j'ai lu ça, moi ? J'ai lu ça aussi par rapport à cette boîte à Paris qu'on appelait le Palace. Je ne sais pas si tu as souvenance de ça. Où tu avais des gens qui... ce style, le style Jacques-Alain Léger, qui venaient et tout se mêlait du politique, extrême droite, extrême gauche, tout un monde de la nuit.
Oui, absolument. C'était on trouvait aussi bien Catherine Deneuve, Jack Lang, Pacadis, Maria Schneider, tout un tas de gens branchés et déjantés, évidemment. Oui, c'était le summum de la représentation. Hein. Dans un de mes précédents livres, j'ai longuement, d'ailleurs je l'ai de temps en temps au téléphone, parlé avec Serge Kruger, hein, Kruger qui était un des héros de cette époque-là, qui a bien vu comment toutes ces mondanités se retrouvaient et se mélangeaient, à bon sens quand même très facticement, hein, parce que une fois que tu avais franchi ou repassé la porte, tout ça c'était terminé. Hein. C'est un peu comme au Club Med, hein, le Club Med. Tout le monde se retrouve en pagne et torse nu, mais. Quand le mois de vacances est terminé, chacun retrouve sa fonction dans la société.
Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire qu'il y a un côté Drieu là-dedans ?
Oui, il y a un côté Drieu, effectivement, oui.
Pourquoi je te dis ?
Oui, moi, dans le livre aussi, à un moment, je le compare à Léon Blois.
Qui
était aussi quelqu'un en rupture et qui pestait contre tout le monde, hein, avec sans doute aussi chez Léger une tendance liée pour partie à sa maniaco-dépression, avoir des complots contre lui partout, parce que je pense quand même qu'il en rajoutait aussi. Hein.
Mais
il avait besoin de ça.
Mais on trouve ça chez Drieu, et on trouve ça aussi chez Léon Blois, hein, ce côté-là. Hein.
Absolument.
Hein, qui donne des gens pour ce qui est de Léon Blois, qui politiquement se situerait plutôt à l'extrême droite et qui sont de rudes pamphlétaires, quoi.
absolument. Ouais.
Avec un côté amer, il y a quand même un côté amer dans tout ça.
Il y a un côté très amer, quoi, très amer, hein, c'est clair. Hein, et je pense que les moments de bonheur, de léger, il les trouve, on n'en a pas parlé, mais il les trouve quand même avec certaines de ses amies, avec des femmes, parce que là, il est en phase avec quand même, on n'en a pas parlé, mais son pôle et son féminin, parce que c'est quelqu'un qui a quand même toujours été partagé, hein, et qui rêve de l'unité originelle, où il n'y avait pas encore la différenciation des sexes mâles et femelles. Hein.
Tu le rencontres en pleine vie ou déjà à l'orée de la chute?
Non, moi je le rencontre, la rencontre dont je parle principalement, c'est celle qui a lieu en 82 à Séville. Comme je le dis, je ne m'étendrai pas là-dessus, à une période aussi particulière de ma vie, où on a un moment qu'on peut qualifier effectivement de balade et de grâce, puisqu'on va aller assister à une corrida. C'était un très grand aficionado, hein, léger aussi.
Tu le connais pas dans toute la période finale de sa chute?
Ah non.
D'accord. D'accord. Donc toi, tu es parti à sa... Tu l'as rencontré, mais tu es aussi parti pour faire ton livre à sa recherche via des témoins, quoi.
Absolument, oui. Le maximum que j'ai pu rencontrer, enfin le maximum. J'ai essayé de rencontrer, parce que je pratique comme ça, des gens qui étaient soit des proches, des intimes, qui faisaient évidemment partie du monde des lettres, pour avoir... comme on dit dans le marketing, un panel de témoins suffisamment représentatif. C'est pour ça qu'on passe de gens comme Jérôme Garcin ou Dominique Noguez à Bertrand Burgala, à Benjamin Baltimore, l'affichiste, à Claire Tétinger, la reine du champagne, qui a été à un moment une amie très proche de lui, hein.
Est-ce que tu crois, alors on va arriver au nul de l'émission, est-ce que tu crois que ce sont tous ces gens-là, Noguez and Co, ce sont des textes qui vont rester?
Noguez and Co?
Oui, plein de gens comme ça, Sorin, Noguez, est-ce que tu crois vraiment que ça a une importance?
Écoute, honnêtement, j'en sais rien, j'ai tendance à dire que je ne pense pas. Toute façon, l'histoire est par nature très très sélective. Moi qui suis un passionné et en partie un enfant des années 70 et précédemment des poètes de la Beat Generation, regarde aujourd'hui ce qu'on retient de la Beat Generation. Un, Jacques Kerouac. Deux, et encore un beaucoup moins, Allen Ginsberg. Burroughs. Un, William Burroughs. Et oui, tous les autres, aujourd'hui, ils sont passés à la trappe. Oui. On ignore des gens extraordinaires comme Bob Kaufman, par exemple. Donc, je pense pas que ça va rester. Moi, mon ambition, si je puis dire, employer ce mot que j'aime pas bien, mais c'est que par contre on se souvienne et qu'on n'oublie pas Jacques-Alain Léger, qui est quand même un auteur, tu l'as rappelé, très méconnu, et qui est quand même un merveilleux écrivain qui décrit les ressorts de la nature humaine de façon extraordinaire. Quand il a écrit Van der Weg en 84, qui est cette grande saga autour d'une famille qui évolue au moment de l'ascension d'Hitler, il le fait pratiquement plus de 20 ans avant les bienveillantes de Little. Donc voilà, et heureusement d'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire qu'il va y avoir à l'automne une réédition de 6 de ses œuvres, et notamment des introuvables de Jacques-Alain Léger et d'Achel et Dayat et de Melmotte. Donc ça veut dire que, bon, il y a quand même aujourd'hui des gens, sans doute pas très nombreux, qui considèrent que c'est un écrivain qui mérite d'être lu, et on essaie de faire en sorte qu'il soit à nouveau lu par les plus jeunes générations, on va dire ça.
Jean Azarel, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il est né en 47, c'est ça?
Oui.
D'accord,
ouais.
Et qu'il meurt en 2013, donc tout le monde fera le compte, et il a été extrêmement prolixe.
Il a été extrêmement prolixe, oui, bien sûr.
Voilà,
ouais.
sous divers pseudonymes.
Et dans tous les genres, et dans quasiment tous les genres. Ouais. Il a fait même un recueil de poésie, hein, qui est très très beau, hein, chez Bourgois. Hein.
Parce que là je regarde, j'ai quatre pseudonymes.
Melmotte, Dachel et Dayat, Jacques-Alain Léger, Eve Saint-Roch, il en a écrit un sous un nom de femme quand même, et Paul Smail, il y en a cinq pseudos.
Bon, puisque le temps tourne, il y a deux choses que je n'ai pas très bien compris par rapport à lui. Donc, tu es là tu vas me les expliquer. Hein. Et c'est pour ça que j'ai avancé des noms tout à l'heure sur, comme Drieu, des choses comme ça. Quel était son problème avec la question juive? Parce que c'est une chose qui revient et qui le poursuit, pour commencer.
Oui, exact, oui.
Pourquoi?
Son problème avec la question... Jacques-Alain Léger, c'est quelqu'un qui aura été toute sa vie en quête d'identité. Donc je pense qu'il a vu, à travers la propre quête du peuple juif, qui est un peuple dit élu, mais qui est un peuple errant, qui aujourd'hui a son état, mais on voit bien à quel point tout ça, c'est fragile. Donc je crois qu'il a somatisé, en quelque sorte... En prenant sur lui ce qu'il y avait de fragile, voilà, je réemploie le terme du peuple juif. Hein. En tout cas, c'est l'analyse qu'on fait, enfin que j'ai fait, mais que j'ai fait à partir de celle qu'on fait d'autres aussi.
Mais donc on revient à mon leitmotiv, c'est à moi papa Freud, parce que c'est marqué dans ton livre. À un moment donné, on dit que bon, ce qu'il fait, il se fait circoncire.
Absolument, ouais.
Hein,
ouais.
Voilà. Ça, c'est une des questions que je me suis posée. Et alors, là, on arrive à un gros morceau et si on peut le développer, ce sera très bien. C'est qu'à un moment donné, il change d'identité pour la énième fois, là, et il va prendre le nom de Paul Smail, qui serait un écrivain arabisant.
Ah ben, ça c'est lui quoi. Au moment où il dit et où il fait paraître un livre qui est une deuxième autobiographie qui s'appelle Ma vie, titre provisoire, où il dit je suis ruiné, j'ai plus d'éditeur, j'ai plus un rond, je vais être à la rue parce que je peux plus payer mon loyer. Il sort un autre livre qui s'appelle « Vivre me tue » sous le pseudo de Paul Smail. Et Paul Smail apparaît comme un jeune beurre érudit, cultivé, qui raconte en 1997 les difficultés d'intégration qu'il rencontre dans la société française.
Et on y croit? Alors, on y croit à l'époque ou pas?
Sexuel, sentimental, professionnel bien entendu, parce qu'il trouve pas de boulot, et il va développer ça, et effectivement, ça va être une supercherie littéraire énorme, puisque toute une intelligentsia bien pensante dit c'est extraordinaire, voilà, vous voyez que un beurre est capable d'écrire un bouquin aussi bien écrit, aussi formidable pour raconter les difficultés qu'ils éprouvent aujourd'hui. Et là, évidemment, quand le poteau rose va être découvert, parce que très vite, il va aussi faire en sorte... à un moment, il devient, je le dis dans le livre, il devient jaloux, en fait, du succès de son avatar. Et donc, il va faire en sorte, petit à petit, de semer des indices pour qu'on se rende compte que c'est lui. Et là, effectivement, ça va déchaîner, parce que les gens ont l'impression, certainement juste, de s'être fait, comme on dit, rouler dans la farine, quoi. Par cet abominable Jacques-Alain Léger.
Là, il y va dur, parce que « Vivre me tue, Paris-Ballan 97 »,« Casa, la Casa, Paris-Ballan 98
ouais. »,«
La passion, selon moi, Lafont 99 », et « Ali le magnifique, Paris de Noël 2001 ». C'est-à-dire qu'il en rajoute, il en fait des tonnes, quoi.
Alors, il en fait des tonnes. « Casa, la Casa, la passion, selon moi, sont pas terribles », mais heureusement, il y a cette espèce de flot incroyable d'Ali le Magnifique qui va clore le chapitre Smail, parce que là, bon, c'est plus possible, il va revenir, il est déjà d'ailleurs revenu à Jacques-Alain Léger dès l'année 2000, quand il écrit ce livre sur la corrida, qui a pour nom Maestranza, celui des arènes de Séville. Oui, donc là encore, il réussit un tour de passe-passe extraordinaire qui va lui redonner une vigueur d'ailleurs énorme, parce que « Vivre me tue » est aussi un gros succès. Il est aussi adapté au cinéma par Jean-Pierre Sinapi 2 ans après, qui m'a raconté d'ailleurs dans le bouquin qu'il s'était trouvé floué comme les autres et qu'il en avait sur le moment éprouvé beaucoup de dépit, mais enfin, de toute façon, il voulait faire ce film, quoi. Donc oui, ça c'est Léger, quoi. Hein. C'est cette cherche, recherche d'identité qui continue à le poursuivre, mais en même temps qui lui permet de vivre et d'écrire, quoi.
Dans cette volonté de peopleisation qui est la sienne, il faut bien l'avouer, hein, il passe aussi par la télévision.
Il passe par la télévision, on le trouve chez Ardisson, on le trouve chez François Bunel à la Grande Librairie. Oui, parce que c'est quand même quelqu'un, de la façon dont il écrit, bien sûr, mais aussi pour les gens de télé et pour cette immense machinerie qu'est la médiatisation par l'image, c'est quand même un écrivain qu'il est intéressant d'inviter, parce que le mec, il fait le buzz, il débine et il dégoise un peu sur tout le monde. Au moment où il fait ses pamphlets contre l'islam radical, il y a une émission là, il est face notamment à Jean-Luc Mélenchon, c'est assez marrant quand même. Hein.
Avant qu'on se quitte, il y a deux choses là. C'est le rapport à Arthur Cravant, ça je peux pas laisser passer ça.
Alors vas-y.
il n'y a pas de plainte chez Cravant, il y a un côté plaintif chez Léger, c'est la première des choses.
Ah oui, d'accord.
Deuxièmement, tout. Ah bien sûr, je te remercie, ça me fait plaisir. On est bien sur Radio Liberté 89.4. Et deuxièmement, Léger du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai crié à moi Papa Freud. Tu peux lire Arthur Cravant. Tu ne crieras jamais à moi Papa Freud. Hein.
Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je mettais pas le rapport entre Léger et Cravant là-dessus. Hein. Je l'ai mis sur cette façon, d'abord par rapport à la boxe, hein, évidemment, parce que Cravant était quand même aussi un boxeur d'un type
un peu bizarre, un peu spécial, oui.
Hein, on est d'accord. Et puis il avait cet art aussi d'apparaître là où on ne l'attendait pas, en donnant des conférences inattendues et invraisemblables. Donc c'est effectivement sur cet aspect-là que j'ai trouvé une forme de parenté, mais évidemment pas sur ce que tu découvres, sur ce que tu dis, bien sûr, par rapport à Freud, c'est indubitable.
Troisième petit point, il y a un rapport d'admiration ou d'attirant, je ne sais pas comment on est ça. Non, mais ça, pour Mishima, et Mishima, politiquement, c'est quelqu'un qui est quand même des plus douteux.
Ah ben, complètement, oui, ah ben, bien sûr, oui, ben ça, hein, bien sûr.
Voilà, une attirance de l'homme fort, en fin de compte, du super viril macho, quasiment militaire, quoi.
Ah oui, non, mais c'est bien, c'est évident. C'est d'ailleurs pas pour rien que le parallèle intervient lors d'un entretien que j'ai eu avec quelqu'un qui ne voulait pas être nommément cité, qui est un militaire de carrière, hein, qui lui-même vit entouré de souvenirs militaires d'X expéditions françaises dans les pays africains, etc. Bien sûr.
Tu commences ton livre, c'est les deux premières pages, par l'acte fatal. On est en juillet 2013. Il est à bout de course, il est à bout de souffle, il est ruiné, c'est la maladie qui le ronge.
Sur les derniers temps, le syndrome de la chute est présent dans toute son œuvre, et dans les derniers temps, il avait déjà tenté de sauter, il avait tenté de s'étrangler en s'étouffant avec un sac plastique avant de se jeter par la fenêtre, et l'instinct vital l'avait retenu. Il avait calfeutré les fenêtres de son appartement dans lequel il avait pratiquement tout saccagé. Enfin, bon, il l'avait quasiment plus. Enfin, bon, c'était catastrophique, quoi. Et surtout, il n'arrivait plus à écrire et il n'arrivait plus à écouter de la musique classique. Lui, qui était un grand mélomane, il disait que Mozart grinçait à son oreille. Et il a fini par faire le geste fatal, quoi.
Côté psychophysiologique, le saut volontaire d'un huitième étage engendre la désintégration corporelle qui, depuis longtemps, minait le cerveau.
Ouais.
C'est-à-dire que le corps et l'esprit ne fonctionnent plus.
Exactement.
Hein, c'est ça. Et c'est très drôle.
Exactement. Et comme il m'arrive de dire ou d'écrire plutôt dans mes dédicaces, il choisit la chute pour ultime élévation.
Mais c'est parfait, monsieur. C'est parfait, monsieur. Monique est pliée en cabine, c'est bon signe. Bon. Et là est citée, petite parenthèse, Gilles Deleuze. Moi, je savais qu'il avait sauté en 95.
Oui, il y a quelques défenestrés célèbres.
Par contre, je ne savais pas, c'est qu'il avait. Il a sauté de la fenêtre de l'appartement où il est né.
Bah écoute, apparemment, oui.
C'est extraordinaire.
Ouais,
ça, c'est extraordinaire. Bon, et puis, comme on a été content, absolument ravi d'avoir M. Koda avec nous aujourd'hui, là. M. Koda, qui est quand même directeur littéraire de chez Douros, a en prévision...
Ah oui, excellente collection.
Très bonne collection. A en prévision un Anse Belle-Mère.
Oui, il me l'a dit, absolument.
D'accord. Donc, on fera l'émission. J'espère qu'il pensera à moi en service de presse, bien sûr, tout simplement parce que...
Je ne ferai pas faute de lui rappeler.
Mais bien sûr, bah, je vous remercie. Simplement parce
Et j'espère que ce jour-là, ça ne sera pas son cabinet, son chiotte. Allez, on dit le mot qui explosera, quand même.
Ou peut-être même son bidet. Hein.
Bon, son bidet, oui, son bidet.
Et on pourrait... Non, mais on dit ça parce que Unica Zern s'est foutu par la fenêtre de l'appartement là, à quelques... un quart d'heure d'ici, hein.
Ah oui.
Voilà. Donc c'était un plaisir. On peut remercier Monique qui a fait des miracles encore une fois. Hein.
Merci Monique.
Les remercier. Alors on rappelle, vous direz que je suis tombé. Vie et mort de Jacques-Alain Léger, Jean Azarel, aux éditions Séguier. Si quelqu'un voudrait lire quelque chose, Jean, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'il faut qu'il lise là ?
Alors ça dépend de ce qu'on aime lire. Pour retrouver un de ses romans les plus faciles, L'heure du tigre ou Monseigneur, le léger écrivain historique Van der Weg, ou Jacob Jacobi, dont on n'a pas parlé, mais qui est un livre extraordinaire, où il raconte comment il est dans la peau d'un nègre, d'un grand auteur juif échappé de la rafle du Veldiv. Ça, c'est des livres vraiment...
Et on lit Monseigneur ou pas ?
On peut lire Monseigneur, bien sûr qu'on peut lire Monseigneur, bien sûr.
Parce qu'on le trouve, dans les brocantes souvent.
On peut le trouver à 1 ou 2 euros un peu partout.
À peu près. Bon, Jean Azarel, c'est un plaisir.
Hein? Plaisir partagé.
Et à bientôt.
Le meilleur.
À bientôt. Et puis bonjour à toutes ces vaïnées qui t'ont éventé pendant toute l'émission. Hein. Avec leurs palmes, bien sûr. Merci Monique.
Merci beaucoup à Monique. Merci Jean. Bonne continuation.
Regarde à table quand ils mangent, ils s'engouffrent dans l'innommé, ils se dépassent d'eux-mêmes et s'en vont vers l'ordure et le rot ponctuel. La ponctuation de l'absurde, c'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux. Comme à l'atterrissage, on rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frichti, de l'organe, du repli. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète où les bouchers vendaient de l'homme à la criée. Moi, je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes, nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors, becton, côte à l'os pour deux personnes. Tu connais ? Heureusement, il y a le lit, un parking. Tu viens, mon amour. Et puis, c'est comme à la roulette. On mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre. Et ils mettent. Le drame dans le couple, c'est qu'on est deux. Et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je change de trottoir, ne marie pas, ne vote pas, sinon t'es coincé. Elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux, dans les bras, dans nos futales. Elle s'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte, elle était comme morte. Elle sommeillait, on l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. Transbahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains. Rien dans les poches, tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Comment vous nommez-vous ? Karl Marx. Allez, passez. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Nous nous retrouverons bientôt démunis, seuls, avec nos projets dans le passé. Écoutez-les, écoutez-les. Ça rappe comme le vin nouveau. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, ça débordera sur les trottoirs. La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule. Toutes des concierges, écoutez-les. Il n'y a plus rien. Si les morts se levaient, hein? Nous étions combien? Ça ira. La tristesse, toujours la tristesse. Ils chantaient dans les rues de Maripa, ceux de San Francisco, de Paris, de Milan, et ceux de Mexico, bras dessus, bras dessous, bien accrochés aux rêves. Ne vote pas au DC-8 des pélicans, cigognes qui partent à l'heure, labrador, lèvres des pissants. J'invente en bas des rennes bleues, un habit rouge du couchant. Je vais à l'ouest de ma mémoire, vers la clarté. Vers la clarté, je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis 100 000 watts. Des circuits sont en panne dans le fond de ma viande. J'imagine le téléphone dans une lande, celle où nous nous voyons, moi et moi, dans cette brume obscène au crépuscule teint. Je ne suis qu'un voyant embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent, je ne suis qu'un binaire. Mon fils, il faut lever le camp, comme lève la patte. Il est tôt, lève-toi, prends du vin pour la route. Dégaine-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils, vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras, tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi, tu rentreras dedans. La mue, ça se fait à l'envers, dans ce monde inventif. Tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Retourne tes yeux au-dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans les velours glacés, soumis, mollasses, que ces horribles magasins roulants qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire « Monsieur, madame, laissez donc ces gens-là tranquilles, ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par les veilles soucieuses, et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous. Ce qui vous déshonore, c'est la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs, vous êtes puissants au point de vous refléter tel que vous êtes, cravaté, envisonné, en papaouté de morgue et d'ennui dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous vous êtes arrangé pour soumettre à un point donné, à heure fixe, pour vos narcissiques partout. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire, avec cet apparat vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous vous arrangez la veille. Toujours la veille pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige d'être déraciné, les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et quand on vous transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, un ordre nouveau, vous faites greffer au retour, et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas? Et les vauriens qui vous amusent, ces vauriens qui vous dérangent aussi, on les enveloppe dans un fait divers, pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous vous croyez toujours, vous autres, dans un haras. La race, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivez même à vous parler à vous-même comme si vous parliez à vos subordonnés, de peur de quitter votre stature, vos boursouflures, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise « Tiens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper, soyez tranquille, pour la réputation vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure, cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'a pu vous coûter de silence aigre, de renvois mal aiguillés, de demi-sourires séchés comme des larmes, ce ruban malheureux et rouge comme la honte, dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi la nature met tant d'entêtement, tant d'adresse et tant d'indifférence biologique à faire que vos fils ressemblent à ce point à leur père, depuis les jupes de vos femmes matrimonières jusqu'aux salonnards équivoques. Vous les dressez à boire dans votre grand monde, à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil, sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout, et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridico-pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans.
jetable, homme d'affaires impeccable.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, Géant a terminé son émission Onde de choc, ce n'est pas encore tout à fait l'heure de Trou Noir. Nous allons en profiter pour vous faire lecture de deux motions qui ont été adoptées lors du dernier congrès de la Fédération anarchiste, les 23, 24 et 25 mai de cette année, bien sûr, à Merlieu dans l'Aisne. La première, au hasard. Hein. Liberté, j'écris ton nom. Nos libertés sont attaquées. Liberté d'expression, d'opinion, de circulation, de vivre librement son identité et orientation sexuelle, etc. Nos libertés sont menacées. L'homophobie et la transphobie avancent. Elles se parent de lois honteuses. Les conquis des femmes reculent. Ils gênent l'obscurantisme. Le droit à l'avortement et à la contraception sont dans le viseur de discours servant de support à des actes qui grandissent en nombre et en horreur. Virilisme et machisme sortent du bois. La censure avance par le biais de pressions économiques et les libertés d'expression s'amoindrissent. L'illusion démocratique du système électoral par la délégation et la confiscation du pouvoir populaire nous soumet à des régimes autocratiques, fascistes, illibéraux. Les acquis sociaux trinquent, jetant à la pauvreté des millions de salariés et fragilisant les plus faibles. La protection sociale et l'accès aux soins de santé se réduisent à mesure que les inégalités augmentent. Avec nos libertés, c'est l'environnement qui est mis en péril. Nous assistons à la destruction galopante et à grande échelle des écosystèmes par la pollution de l'air, des sols, de l'eau. Émissions incontrôlées de gaz carbonique et méthane, de microparticules et de matières radioactives rendent notre monde toujours plus invivable. En face de nous, répression et violence. Mouvements sociaux matraqués, politiques guerrières, écocides décomplexés, assassinats de militants, etc. Ces politiques capitalistes, extractivistes, nationalistes et étatistes font enfler l'ego des dictateurs. Cette violence sociale sert la concentration de richesses entre quelques mains minoritaires. Une élite soutenue par les magnats technofascistes que les gouvernements courtisent au détriment des droits humains. Peu importe le respect de la dignité humaine. Nous refusons profondément cet état de fait. Le monde qu'ils tentent de nous imposer est terrifiant. Nous sommes de ceux qui se soulèvent contre lui. La Fédération anarchiste est révolutionnaire. Changer le monde devient chaque jour une nécessité plus pressante. C'est une question de justice, c'est une question d'éthique, c'est une question de liberté. Vive la révolution!
Donc, seconde motion adoptée lors du 84e congrès de la Fédération anarchiste réunie à Merlieu les 23, 24 et 25 mai 2026. Le titre « Contre l'état d'alerte de sécurité nationale » avec des guillemets de point « résistance ». Dans tous les états du monde, les budgets militaires atteignent des sommes impensables, sonnant le glas des services publics et des droits humains, semant la misère. Et les guerres, orchestrées sur tous les continents pour le profit de quelques multinationales voraces, terrorisent et déciment les peuples. La diplomatie n'est plus qu'un vague souvenir, tandis que les traités de paix internationaux sont ridiculisés. L'heure est à la surenchère. Sans qu'elle l'ait choisi, les populations mondiales autorisent l'anéantissement des vies en Ukraine ou en Iran, sous le feu des États-Unis et d'Israël. Sans qu'elle l'ait choisi, les populations mondiales s'appauvrissent quand flambe le prix du pétrole. Irradiant total. La France ne saurait être en reste et son gouvernement a fait voter en mai 2026, par un jeu d'alliance de l'extrême droite au centre extrême, une rallonge de 36 milliards aux 413 initialement prévus par la loi de programmation militaire. Pour discipliner les esprits chagrins, l'actualisation de cette loi prévoit d'abord un nouveau régime d'exception, un état d'alerte de sécurité nationale. Il offre les pleins pouvoirs à la clique gouvernementale pour s'asseoir sur les libertés publiques et la protection de l'environnement. On se souvient de l'usage que fit le pouvoir français de cet état d'exception lors du mouvement des Gilets jaunes ou de la crise Covid. Mais c'est la jeunesse qui constitue le cœur de cible de l'endoctrinement guerrier. Une journée de mobilisation viendra remplacer la journée de défense et citoyenneté. Ce moment est prévu pour développer des contenus militaires. Si l'échec du service national universel, le fameux SNU, a conduit à la mise en place d'un service national qui ne sera plus que volontaire, il s'agit pourtant de rendre progressivement acceptable et désirable la militarisation de la société. Le conditionnement s'entreprend dès le plus jeune âge et l'armée s'infiltre toujours plus à l'école. La loi Blanchet, adoptée en mars 2026, prévoit que l'éducation morale et civique pourra désormais être dispensée par l'armée sur la notion esprit de défense. Pour approfondir, le déploiement des classes défense s'intensifie dans le second degré. À l'université, la propagande belliciste prend la forme séduisante du jeu vidéo Orion, visant à tester la résilience de la population lors d'un conflit. La guerre prend de multiples formes, même celle de la paix. Économique, capitaliste, militaro-industriel, technologique, nucléaire, territorial, néocolonial, patriarcal, religieuse, idéologique. Elle reste asservissante et meurtrière. Qu'elle soit intente interne ou externe, maintien de la paix ou humanitaire, la guerre est indispensable au développement du capitalisme. Où qu'elle soit, l'armée a pour fonction le contrôle social, de concert avec la police et la prison. En temps de paix, tout soulèvement, toute manifestation politique ou sociale, toute critique de l'État et de son pouvoir régalien subissent les lois de plus en plus répressives au nom de l'urgence et de l'exception. En temps de guerre, ce sont les populations civiles qui trinquent le plus. Drones, bombardements, mines antipersonnelles, tortures, viols comme armes de guerre, esclavage sexuel, déplacements forcés, etc. Tout concourt à terroriser les populations pour les soumettre et les dresser au service du capitalisme et des puissants. Utilisant le patriarcat toujours, la religion souvent, et de plus en plus une laïcité d'ordre. La Fédération anarchiste appelle tous les mouvements de déserteurs et déserteuses, de refuseniks, de travailleuses et de travailleurs, de syndicalistes, de paysannes et de paysans, de féministes, de LGBTQIA+, d'antipatriarcaux, d'antiracistes, de pacifistes et d'anarchistes du monde entier à s'organiser pour la paix et la justice sociale. La Fédération anarchiste déploie des campagnes antimilitaristes, tant par l'action que sur le plan des idées. Cet engagement n'aura de cesse ici et sur le plan international. Aussi, l'urgence pacifiste et antimilitariste vise au démantèlement de toutes les infrastructures militaires multinationales et des arsenaux nucléaires dans le monde. La Fédération anarchiste soutient toutes les victimes de la répression d'État au nom de leurs luttes sociales et pacifistes. La Fédération anarchiste s'inscrit toujours dans le droit à l'objection.
Yeah.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, donc Nicolas au micro, en compagnie de Serge, et puis d'un trio autour d'Anthony Laurent, Sciences Critiques, et Juliette, et Nicolas, Juliette, j'ai oublié ton nom, mais tu pourras nous le dire, puisque nous allons parler d'une BD, le premier texte de BD publié par Sciences Critiques. Mais avant, contrairement à l'habitude d'Entrou Noir qui fait qu'on consacre l'entièreté de l'émission à nos invités, l'actualité nous rejoint un peu et on a l'opportunité de vous donner des nouvelles d'un conflit fort peu médiatisé puisqu'il se situe loin de chez nous puisque c'est en Bolivie. Et donc nous avons un de nos compagnons, Guillermo, qui va se présenter lui-même et qui normalement est en ligne. Guillermo, est-ce que tu es là ?
Je suis là, merci de m'accueillir. Salut à tous et à toutes en Radio Libertaire.
Merci Guillermo, merci d'être là. Alors je précise que tu es militant internationaliste de l'Union des travailleurs et travailleuses anti-autoritaires. C'est bien ça ?
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Ok. Alors, effectivement, on a sauté sur l'occasion quand on s'est croisé dernièrement. Tu nous as proposé de donner un peu d'informations sur ce qui se passe en Bolivie, puisque c'est peu connu ici. Et nous-mêmes, on en sait assez peu, si on accepte quelques images qu'on a pu voir à la télé ou ailleurs. Alors, je vais peut-être fixer le cadre de ce que je connais, et puis après, tu complèteras. Monique va intervenir.
Oui, avant, je voudrais demander à Guillermo s'il entend bien le retour radio ou pas.
Oui, j'entends bien le retour radio là.
Super.
Parfait.
Magnifique.
Je vous entends tous et toutes, même les génériques, la musique et les petits bruits.
Parfait. Quand on boit le verre d'eau, tu nous entends. Donc, en Bolivie, il y a eu une élection présidentielle il y a 6 mois, enfin voilà, à la fin de l'année 2025, en gros. Il y avait, au second tour, il y avait deux candidats. L'une, je crois, c'était une dame, était celle du pire. Et puis, un autre était un peu plus tolérable. Et donc, si j'ai bien compris, le jeu du moins pire en matière électorale a fait que le candidat du moins pire a été élu. Est-ce que jusque-là, tu pourras mettre les noms parce que je n'ai pas les noms en tête.
C'est un peu plus compliqué que cela. C'est assez complexe de comment on est arrivé à ces procès électoraux, un processus électoral, mais c'est à peu près ça, oui.
Et ce qui s'est passé, en revanche, c'est que le candidat élu, qui a pris ses fonctions il y a à peu près 6 mois maintenant, au lieu de faire un certain nombre de choses qu'on attendait de lui, a fait plutôt tout le contraire, c'est-à-dire redonner l'accès aux grands groupes capitalistiques étrangers pour l'exploitation minière, des richesses minières de la Bolivie. Et donc la population s'est un peu soulevée contre cette, usurpation, mensonge ou trahison.
Oui, voilà. Donc... Déjà, merci pour m'accueillir là. Je vais essayer de vous faire un petit résumé historique de ce qui est en train d'arriver en Bolivie. Il s'agit de la suite de l'avancement de la droite ultralibérale en Amérique du Sud, en profitant des tentatives des différents groupes d'orientation plutôt démocrate, sociodémocrate, ou même des gauches, nettement la gauche indienne, et tout cela, qui galèrent à gouverner quand les peuples, ils leur courent après. Ah, donc, ces types-là, ils se présentaient comme une troisième option, Rodrigo Paz, en appelant, alors que tous, ils disaient « Bolivia para todos »,